Chapitre 21. En 2007, un violoniste de renom nommé Josh Bell, qui venait de donner un concert à guichet fermé, dont les billets s'étaient arrachés à une centaine de dollars en moyenne, s'est fait passer pour un musicien de rue. Il s'est présenté dans une station de métro de Washington, vêtu d'un jean et d'une casquette de baseball, où il a joué exactement la même musique que lors de son concert, sur un violon fabriqué sur mesure, d'une valeur dépassant les 3,5 millions de dollars. Quasiment personne ne s'est arrêté pour l'écouter, explique le professeur Kindred à l'amphithéâtre rempli d'étudiants. En fait, même lorsque de temps en temps des enfants s'arrêtaient, leurs parents les attrapaient par le col et les obligeaient à reprendre leur chemin. Cet homme avait donné un concert complet à Boston, et ce jour-là, pas plus d'une cinquantaine de personnes se sont arrêtées assez longtemps pour mettre un dollar dans son étui à violon. Alors, comment expliquez-vous cela ? Après un moment d'hésitation, une fille au premier rang lève la main, celle qui est toujours avide de répondre aux questions. Je pense que c'est en partie dû au fait que la beauté est moins facilement perçue dans un cadre modeste. Je prends le métro tous les jours du Bronx à Manhattan et je vois souvent des gens qui jouent de leur instrument pendant que j'attends l'arrivée du métro. La station la plus proche de mon immeuble empeste l'urine, pour des raisons que je préfère ne pas imaginer. Mais si quelqu'un joue de la musique pendant mon attente, j'ai l'impression que ça sent moins mauvais. Je me serais arrêtée, moi. J'aurais écouté Josh Bell. J'aurais peut-être même glissé un dollar dans son étui à violon, et pourtant je compte le moindre dollar. « Ok, » dit le professeur Kindred. « D'autres facteurs possibles ?» J'hésite quelques secondes avant de lever la main. Je n'ai pas pour habitude de participer aux cours, vu que j'ai à peu près 10 ans de plus que la personne la plus âgée dans l'amphi, à part le professeur. Mais personne d'autre n'a l'air de vouloir répondre. « Personne ne voulait l'aider ?» je suggère. Le professeur Kindred acquiesce en caressant sa barbe. « Que voulez-vous dire par là ?» Eh bien, il avait un étui à violon ouvert devant lui, avec de l'argent dedans. Les gens sont partis du présupposé qu'il cherchait de l'aide sous forme d'argent. Et comme ils ne voulaient pas l'aider, ils l'ont ignoré. Selon leur point de vue, s'arrêter aurait impliqué qu'il devait l'aider. Le prof hoche la tête. « Ha ! Alors ça ne dit pas grand-chose de bien sur la race humaine. » Si personne n'était prêt à apprécier une belle musique, au seul motif que cela impliquait peut-être d'aider une personne dans le besoin. Comme il me regarde toujours, je me sens obligée d'ajouter quelque chose. Au moins 50 personnes se sont arrêtées, c'est déjà ça. Très vrai, convient-il. C'est déjà ça. Je l'aurais aidé, moi. J'aide toujours les gens. Je ne peux pas fermer les yeux, jamais, même quand je devrais. À la fin du cours magistral, au moment où je sors du bâtiment, j'aperçois un visage familier qui descend la rue. Je suis un peu surprise de constater qu'il s'agit d'Amber Degro, la femme qui m'a renvoyée parce que sa fillette m'appelait maman. Et pourtant, ma surprise n'est rien comparée à celle que j'éprouve à la voir pousser une poussette contenant la petite Olive, qui joue avec une sorte de hochet qu'elle s'enfonce aussi loin qu'elle peut dans la bouche. Elle a les lèvres tout empoissées de bave. Quand je travaillais pour elle, jamais Amber n'a montré la moindre velléité d'emmener Olive en promenade. C'est donc une bonne nouvelle pour elles deux. J'envisage de m'esquiver au coin de la rue pour éviter une rencontre gênante, mais Amber me repère et lève la main pour me saluer avec enthousiasme. Apparemment, elle a complètement oublié la façon dont elle m'a virée.
« Millie !»
m'appelle-t-elle.
« Mon Dieu, quel plaisir de vous voir !»
Vraiment, parce que ce n'est pas ce qu'elle a dit la dernière fois qu'on s'est vus. « Bonjour, Amber !» je réponds, déjà résignée à une conversation polie. Elle s'arrête à côté de moi et lâche la poignée de la poussette le temps de lisser ses cheveux blonds vénitiens qui brillent sous le soleil. Aujourd'hui, Amber a opté pour le tout cuir. Un pantalon en cuir, rentré dans des bottes en cuir montant jusqu'aux genoux, et un trench en cuir marron clair.
« Comment allez-vous? Tout va bien ?»
Elle penche la tête sur le côté, comme si j'étais une amie dans la dévaine plutôt qu'une personne qu'elle a virée. Absolument, je lâche entre mes dents. Super bien.
Où travaillez-vous maintenant?
J'éprouve une réticence à lui parler de mon poste actuel. Après tout, Elle m'a renvoyée pour la raison la plus stupide qui soit. Je n'ai pas la moindre confiance en cette femme. Je suis entre deux boulots.
Je vous ai vu dans la rue l'autre jour, reprend-elle. Qui entriez dans ce vieil immeuble sur la 86e rue? C'est là que vit Douglas Garrick, n'est-ce pas?
Je me fige, sidérée qu'elle possède cette information. Enfin, après réflexion, dans le milieu des gens riches, tout le monde connaît tout le monde, apparemment.
Oui, je travaille pour les Garrick maintenant.
Ah, c'est donc ça que vous faisiez là-bas. Le sourire qui se dessine sur les lèvres d'Amber me met mal à l'aise. Qu'est-ce qu'elle sous-entend exactement?
Oui.
Elle m'adresse un clin d'œil.
Je suis sûre que vous en profitez bien.
Je n'apprécie pas son ton, mais tout à coup je me rappelle que rien ne m'oblige à rester là à discuter avec Amber. C'est l'un des avantages de ne plus être à son service. En revanche, je veux dire bonjour à la petite Olive, dont le menton luit de bave. Je ne l'ai pas vue depuis un moment, et un bébé change rapidement à cet âge. Elle va à peine me reconnaître.
« Coucou, Olive !»
Je gazouille. La petite ôte le hochet du fond de sa gorge et lève ses immenses yeux bleus pour me dévisager.
« Maman !»
s'écrie-t'elle, l'air ravi. Le visage d'Amber se vide de toutes ses couleurs.
« Non ! Ce n'est pas elle, ta maman, c'est moi !»
Mais Olive tend ses bras potelés vers moi.
« Maman ! Maman !»
Voyant que je ne la prends pas dans mes bras, la petite se met à sangloter. Amber me fusille du regard.
« Regardez ! Vous l'avez bouleversée !»
Sur cette remarque, elle fait volte-face et s'éloigne en courant dans le sens inverse, tandis qu'Olive continue à pleurnicher « Maman !» Malgré tout, cette rencontre me donne le sourire. Il semble que la petite se souvienne de moi, tout compte fait. Alors que je regarde Amber disparaître au loin, mon téléphone se met à sonner et ma bonne humeur s'évapore instantanément. Ça peut être deux personnes. Soit Douglas qui m'annonce que je suis virée pour avoir harcelé sa femme, soit Brock, ce qui serait encore pire. Les choses se sont décidément refroidies entre mon petit ami et moi depuis que je lui ai brusquement annoncé que je ne voulais pas vivre avec lui. Je lui ai expliqué à plusieurs reprises que j'avais besoin de mon propre espace et que je ne me sentais plus en danger maintenant que Xavier est enfermé pour un certain temps. Mais il ne comprend toujours pas. J'ai le mauvais pressentiment que si l'on ne va pas très, très vite de l'avant dans notre relation, elle va se terminer. Sauf que, quand je regarde mon téléphone, ce n'est ni Douglas ni Brock. C'est un numéro que je ne reconnais pas.
Allô ? Est-ce bien Wilhelmina Calloway ?
Je marque une pause, le temps de me demander si la voix à l'autre bout du fil va m'apprendre que la garantie de ma voiture est sur le point d'expirer ou si elle va s'embarquer dans une tirade en langue étrangère.
Oui ? Bonjour, c'est Lisa de Jobmatch.
Mes épaules se détendent. Jobmatch, c'est le service que j'ai utilisé pour déposer mon annonce pour un emploi de femme de ménage.
Bonjour Lisa.
Madame Calloway,
reprend Lisa de sa voix enjouée.
Nous n'avons pas reçu de réponse à nos mails. C'est donc la deuxième fois que j'essaie de vous contacter au sujet de votre carte de crédit.
Ma carte de crédit?
Oui, votre American Express a été refusée.
Je secoue la tête. Quelle idiote je fais.
Je suis vraiment désolée, j'ai annulé cette carte. C'est une erreur, je voulais utiliser ma Mastercard. Cela dit, je n'ai plus besoin de cette annonce.
Dans tous les cas, reprend Lisa, je voulais juste m'assurer que vous compreniez que, puisque nous n'avons pas reçu votre paiement, l'annonce n'a jamais été diffusée.
Je m'immobilise en plein milieu de la première avenue.
Attendez, mon annonce pour le poste de femme de ménage n'a jamais été publiée ?
J'ai bien peur que non, faute de paiement, précisément. Comme je viens de vous l'expliquer, nous avons essayé de vous contacter.
Mais je n'écoute plus. Comment est-il possible que mon annonce pour le poste de femme de ménage ne soit jamais parue en ligne ?
Vous êtes sûre ?
Je bredouille.
Vous voulez dire que mon annonce n'a jamais, jamais été mise en ligne ? Pas même un jour ?
Pas même un jour,
confirme Lisa. Je repense à l'époque où je cherchais du travail il y a quelques mois. La plupart de mes entretiens ont eu lieu avec des employeurs potentiels que j'avais contactés par le biais de leur propre annonce.
En fait, un seul d'entre eux m'a contacté sans avoir été sollicité. Douglas Garrick.